RCF.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. La France peut-elle faire confiance aux États-Unis ? Après l'affaire des sous-marins australiens, après le retrait bâclé des troupes américaines d'Afghanistan, l'Amérique de Joe Biden n'est-elle pas en train d'oublier ses anciens alliés européens et en particulier notre cher et vieux pays ? N'est-elle pas en train de dire bye-bye à Lafayette ? L'OTAN est-elle en état de mort cérébrale ? Et comme le dit Emmanuel Macron, pour mieux comprendre les ressorts historiques de la position américaine, j'ai invité un expert qui vient de publier un livre absolument passionnant intitulé « Les grands jours qui ont changé l'Amérique », c'est chez Perrin. Dominique Simonet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef à l'Express, vous êtes spécialiste des États-Unis et vous co-signez avec Nicole Bacharan, qui elle est politologue, historienne et également spécialiste des États-Unis, cette synthèse de la brève histoire américaine, une synthèse inhabituelle, il faut le dire, en tout cas puisée aux meilleures sources. À travers 23 grandes dates, grandes journées, vous proposez une plongée dans l'inconscient d'un pays, un pays qui est un monde en lui-même, un pays tout à la fois épris de liberté, de toutes les libertés, mais aussi un pays tenaillé par la violence. Qui sont vraiment nos amis américains ? Sont-ils vraiment nos alliés ? C'est le sujet de cette édition des Racines du Présent.
Les Racines du Présent. Frédéric Mounier.
Alors Dominique Simonet, vous co-signez donc avec Nicole Bacharan « Les grands jours qui ont changé l'Amérique », c'est chez Perrin. Alors je dois dire que lorsqu'on referme votre livre, on reste sur une drôle d'impression. En fait, nos amis américains, ceux qui nous ont libérés du joug nazi en 1944, ceux qui ont été pendant longtemps les phares du monde libre, eh bien, on découvre en vous lisant que l'histoire de leur nation est fondée sur un génocide, celui des 10 millions d'Indiens qui peuplaient l'Amérique du Nord avant l'arrivée des premiers pionniers. On découvre qu'une violence souvent exacerbée a été le moteur de leur démocratie. On découvre aussi que leur rapport à Dieu, au christianisme au pluriel, n'est pas exempt de délire sectaire. Et enfin que pendant longtemps, leur prospérité a été fondée sur l'esclavage et la ségrégation raciale, sans oublier la conquête spatiale qui a reçu en héritage la science nazie. Alors Dominique Simonet, me trompais-je ? Vous ai-je mal lu ?
Non, je ne crois pas. C'est tout le paradoxe et en même temps l'intérêt de ce pays, de cette nation qui est relativement jeune, hein, puisqu'elle a deux siècles et demi.
C'est rien.
C'est rien du tout.
À l'aune de notre propre histoire.
Et on voit effectivement qu'elle est, c'est un paradoxe, elle est partagée entre elle est construite même sur l'idée de liberté, cette volonté des premiers colons d'échapper au tracas de la vieille Europe, de traverser l'Atlantique et de fonder quelque chose de nouveau et avec une ambition de pas encore d'indépendance, mais en tout cas avec une ambition de liberté et d'essayer de faire un monde nouveau, le nouveau monde d'ailleurs. Et en même temps, vous l'avez dit, c'est totalement fondé sur la négation de ce qui existe déjà sur ce continent, c'est-à-dire des nations indiennes, des tribus indiennes qui sont là depuis des siècles. Et puis très très vite sur cette abomination qui a été l'esclavage,
voilà.
Et qui considère que les êtres humains ne sont pas égaux entre eux, alors que très vite les premiers colons et ce qui vont devenir les premiers Américains vont au contraire proclamer que les hommes sont tous libres et égaux. Donc il y a un paradoxe original.
Voilà. Alors toute notre conversation va être marquée par ce paradoxe. Vous écrivez, Dominique Simonet, ce beau rêve, ce rêve originel de la fondation de la nation américaine. Vous écrivez « Ce beau rêve porte en lui sa propre contradiction mortifère avec deux péchés originels, la destruction des peuples autochtones et l'esclavage. » C'est vraiment deux péchés originels.
Oui, parce que les premiers colons arrivent assez tôt, d'abord en Virginie, vers 1607. C'est quand même quelques années avant le fameux Mayflower dont on parle toujours, voilà. Et dont on dit que c'est les premiers arrivés. Non, les premiers colons arrivent un peu plus tôt, en en Virginie. Et ils fondent de la première embryon de colonie qui s'appelle Jamestown. Et quelques années plus tard, il y a un récit d'un juge qui s'appelle John Rolfe et qui dit « Aujourd'hui, un navire hollandais nous a livré 20 nègres ». On est en 1619.
Déjà.
1619. Ouais. Et déjà, ils sont une poignée, ils sont quelques dizaines de colons. Et déjà, il y a l'esclavage qui
Donc,
qui,
c'est dès le début.
Il n'est pas officialisé, il n'est pas même pensé, mais il est en train déjà de s'inscrire, donc avant même la création des Nations Unies.
Alors, on va revenir à toute l'histoire de ces deux petits siècles de l'histoire des États-Unis. On va rythmer notre conversation avec les dates que vous avez choisies, Dominique Simonet, avec Nicole Bacharan dans votre livre « Les grands jours qui ont changé l'Amérique », dont je rappelle qu'il est édité chez Perrin. On va commencer avec le 22 novembre 1621. Alors le 22 novembre, c'est pas bien connu en France, mais aux États-Unis, c'est une date fondatrice, c'est Thanksgiving, c'est-à-dire on rend grâce, on remercie. Et pour vous, Dominique Simonet, vous écrivez avec Nicole Bacharan, c'est le mensonge des puritains. Expliquez-nous.
Ah oui, alors c'est effectivement un premier mensonge. Bon, c'est un petit mensonge, mais c'est un mensonge quand même. Thanksgiving, tel qu'il est présenté, le 22 novembre 1921, c'est effectivement... 1621. Oui. C'est une fête qui est organisée par les colons pour remercier les Indiens de leur bienveillance, parce qu'il faut rappeler que ces Anglais qui arrivent sur les côtes est, sur la côte est des États-Unis, se trouvent dans un état de dénuement et extrêmement perdus dans ce milieu hostile. Et les Indiens vont d'une certaine manière les aider, ils vont leur apprendre à chasser, il va y avoir un certain nombre les initiés. Donc Thanksgiving, c'est une fête avec une dinde et des présents
une fête de la fraternité.
Voilà, une fête de la fraternité. Mais en fait, ce qui va se passer dans les années suivantes et dans les décennies suivantes, ça va être un massacre systématique de ces tribus, parce que les colons vont arriver de plus en plus par vagues successives et ils vont prendre du territoire. Il y a des tribus hostiles aussi qui leur sont hostiles, donc ça va être une guerre permanente.
C'est une guerre pour la terre ou c'est une guerre religieuse? C'est une guerre de quelle nature?
Oh, c'est compliqué à dire, mais disons, c'est une guerre pour la possession, effectivement, de territoire, parce qu'ils s'avancent dans les territoires indiens. C'est une guerre aussi, je dirais presque idéologique, parce que dans l'esprit de ces premiers Américains qui n'ont pas encore ce nom, il y a malgré tout l'idée que ce sont des sauvages, que ce sont des gens qui ne sont pas à l'identique et que d'une certaine manière ils valent pas ils n'ont pas la même valeur qu'un Anglais. Donc oui,
en tant qu'être humain, c'est-à-dire que ce sont pas vraiment des êtres humains.
Voilà,
en fait, dans cette première vision.
C'est ainsi qu'il les voit malgré pourtant, et on le voit avec les puritains qui arrivent, eux, quelques années plus tard, un petit peu plus au nord à Cape Cod. Eux, ils ont pourtant une ambition de faire un monde nouveau. Ils se considèrent un peu comme le peuple élu. Ils parlent de la cité sur la colline. Donc,
le peuple élu, la terre promise, on retrouve des choses qu'on a remarquées dans d'autres régions du monde.
Absolument.
Également. C'était vrai aussi en Afrique du Sud et c'est vrai plus récemment en Israël aussi. Peut-on faire ce type de parallèle?
Oui, parce que d'une certaine manière, pour eux, en tout cas pour ces puritains, pas pour les premiers colons, parce que les premiers colons, et même beaucoup qui arriveront après, sont quand même malgré tout des gens qui veulent fuir l'Angleterre, soit pour parce qu'ils sont persécutés de manière religieuse, ou en tout cas ils peuvent pas exprimer leur foi qu'ils veulent assez entière, pleinement sous la couronne britannique, mais il y a aussi cette idée de faire quelque chose de pur d'une certaine manière, les puritains d'ailleurs, on les appelle comme ça,
de
faire quelque chose de neuf et de faire quelque chose qui respecterait de manière assez stricte une certaine idée de leur religion, une certaine forme de fanatisme, il faut bien le dire,
de sectarisme aussi,
c'est-à-dire de vivre à la lettre,
quelque chose de radical. radical, comme on dit aujourd'hui.
Voilà, absolument, quelque chose voilà. de radical. Oui, c'est le mot à la mode.
C'est le mot à la mode. Alors peut-être pour illustrer ça, Dominique Simonet, je vous propose d'écouter un extrait sonore qui va peut-être étayer vos propos. On se souvient de ce grand dessin animé mis en scène par Walt Disney qui s'appelait Pocahontas. C'était dans les années 1995. On va écouter un extrait, c'est la chanson de Pocahontas, et ensuite vous nous en direz plus sur la réalité de cette petite princesse indienne mise en scène par Walt Disney.
Je pense qu'il est grand temps de secourir notre courageux camarade. Au petit matin, on attaque !
Il n'y a rien à faire avec ces païens indiens. C'est une race de vipères de bon à rien. Il faut tuer ces bêtes d'une balle dans la tête. La vermine, moi, je l'extermine.
Tous des sauvages,
mais pas des êtres humains.
Des sauvages,
chassons ces païens. Ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants. Battons les tambours de cœur.
Tous des sauvages, des sauvages.
Commençons le carnage. Battons les tambours de cœur.
Nous avions raison, l'homme blanc est un démon. Le seul dieu qu'il adore encore, c'est l'or.
Dessous sa peau de lisse, ses vices se glissent.
Ils aiment la mort sans remords.
Tous des sauvages, même pas des êtres humains. Des sauvages.
Des tueurs sans cœur.
Voilà, c'est un extrait du dessin animé Pocahontas, mis en scène par les studios Disney en 1995. On voit bien les deux bords qui s'affrontent. D'une part, ces Européens qui expliquent que c'est une race de vipères, de bon à rien, il faut tuer ces bêtes d'une balle dans la tête, la vermine, moi je l'extermine. Et de l'autre côté, les Indiens qui disent, nous avions raison, l'homme blanc est un démon, le seul dieu qu'il adore encore, c'est l'or. On comprend peut-être que les studios Disney aujourd'hui, lorsqu'ils mettent en ligne ces dessins animés sur les plateformes, ils présentent leurs excuses. Et on voit ce paradoxe américain de mise en scène de ses propres contradictions, de ses propres drames originels, Dominique Simonet.
Oui, absolument. Puis on voit, ce sont des paroles d'une grande violence quand même.
Ben oui.
C'est pour des enfants. Je trouve.
Et on emmenait voir les enfants. On emmenait les enfants voir ça au cinéma.
Oui. Eh ben oui, on emmenait les enfants voir ça au cinéma, mais en même temps, après, Pocahontas, c'est un mythe, c'est le mythe de la jeune princesse indienne qui a effectivement sauvé les colons, oui. qui a eu une histoire d'amour avec l'un d'eux, puis après qui s'est un peu occidentalisé, elle est allée en Angleterre. Donc c'est l'image d'un mythe, c'est l'image d'une illusion, c'est l'image de la fraternisation entre les arrivants et le vieux peuple. Et qui n'a jamais eu lieu. Et c'est d'une certaine manière, c'est une figure triste parce que elle représente la dernière figure d'un monde qui est en train de mourir d'une certaine manière.
L'échec d'une illusion, d'un mythe, en fait,
oui,
c'est ça.
Et aussi, elle représente aujourd'hui, parce qu'elle a traversé, sa légende a traversé les siècles, elle représente le mensonge des Indiens avec qui on fait ami-ami, ce qui n'a pas été le cas. Alors, et d'ailleurs, ce Thanksgiving dont vous parliez tout à l'heure, aujourd'hui, pour ce qu'on appelle aux États-Unis les Native Americans, c'est pour les
Premières Nations.
Voilà. Ils considèrent que ce n'est pas du tout l'anniversaire d'une fraternisation et ils n'aiment pas du tout cette fête. Ils considèrent qu'au contraire, ça évoque pour eux le massacre des Indiens et notamment un fameux massacre qui a eu lieu quelques années plus tard.
Alors, on va mettre de côté, si vous voulez bien, Dominique Simonet, quelques instants. Cette relation entre les nouveaux pionniers et les Indiens, mais on va y revenir. On va arriver à cette date fondatrice, le 4 juillet 1776, c'est la Déclaration d'indépendance, le jour où l'Amérique s'émancipe du vieux monde et fonde sa République. Mais vous écrivez, Dominique Simonet, avec votre co-autrice Nicole Bacharan, dans votre livre « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » chez Perrin, vous écrivez « Ce jour-là, l'Amérique s'émancipe du vieux monde et fonde sa République sur un magnifique rêve et un tragique déni, celui de l'esclavage. » Quelle était la situation ce 4 juillet 1776, Dominique Simonet ?
C'est encore toujours la même chose, toujours effectivement le même déni et cette inégalité fondamentale qui va se développer, à savoir celle entre entre les blancs et les noirs, parce que les noirs qui arrivent là sont des gens qui sont venus contre leur gré et qui vont être effectivement mis en esclavage. L'esclavage est devenu quelque chose on parlera plus tard de l'institution particulière. C'est quelque chose qui va fonder effectivement la société du Sud, notamment. La situation à cette époque-là, c'est les colons anglais se sont développés, ont formé un certain nombre de colonies. Elles sont toutes regroupées sur la côte est, et il y a un certain nombre de bisbilles, de problèmes avec la couronne britannique qui de plus en plus leur faire payer d'impôts sur les timbres, sur le thé, sur un certain nombre de choses. Parce que le royaume a été ruiné par la guerre précédente qui a eu lieu contre les Français dans 1750 et quelques. Et les Anglais d'Amérique refusent cette tutelle. Ils en ont assez, ils ne supportent plus ça. Ils veulent s'émanciper et effectivement, ils commencent à parler d'intelligence, d'indépendance.
D'indépendance.
Et on a, cette fameuse Boston Tea Party qui est une espèce de... le début de la révolte où les colons jettent dans la mer
des
ballots de thé.
Qu'est-ce que ça représentait, les ballots de thé?
Ça représentait beaucoup parce que c'était un commerce extrêmement important, et c'est surtout le geste qui va déclencher la révolte des colons. Et donc ce 4 juillet 1776 dont vous parliez, les colons ont envoyé des délégués de chacune des colonies à Philadelphie, et se sont réunis pour écrire leur déclaration d'indépendance. Donc ils vont donc décider
le texte fondateur par excellence.
Et ils vont donc fonder, il faut qu'on se rende bien compte de ça, fonder une nouvelle nation à partir de rien, qui va se trouver sur ce continent américain.
À partir d'une base religieuse.
Pas seulement religieuse,
beaucoup
religieuse, politique, mais sont des Anglais encore, voilà. Ils le font un petit peu, ils auraient bien préféré rester anglais. Mais là, c'est trop. Et d'un seul coup, s'éveille une conscience, la conscience d'une unité, d'un nouveau continent, d'une certaine manière. Et encore une fois, on ne parle ni des Indiens, ni des Noirs.
Mais voilà, ça c'est clair. Alors, il faut rappeler qu'à ce stade-là, les Français ont donné un sacré coup de pouce quand même. Vous rappelez qu'il y a eu 14 000 soldats français qui sont venus combattre aux côtés des Américains, 36 navires de guerre. C'était pas rien. Et du reste, ça a contribué à l'assèchement du trésor du Royaume de France et peut-être à l'éclatement de notre révolution plus tard. Mais en tout cas, le soutien a été essentiel.
Alors, effectivement, la guerre d'indépendance qui se situe dans ces années-là et qui va être rude. Les Français, on se souvient, tout le monde a en tête Lafayette. On parle de Lafayette, ce héros français qui est allé aider les Américains à trouver leur indépendance. La déclaration d'indépendance, c'est le 4 juillet 1776. On a Thomas Jefferson et tous les pères fondateurs des États-Unis. Et Thomas Jefferson est chargé de rédiger le texte. Il va essayer de trouver un peu des mots pour dire ça. C'est très émouvant parce que le texte existe encore. Il est partout.
L'original.
Oui. Et ces mots, quand on fait des recherches un peu historiques pour savoir comment ça a été fait, il s'est mis dans sa petite chambre en s'écartant du congrès des délégués pour essayer de trouver les bons mots. Il a passé des nuits blanches et il a hésité. La vie, la liberté, la propriété, non pas la propriété. Et donc ça donne la vie, la liberté, la recherche de bonheur la recherche du bonheur qui sont les trois mots fondateurs.
C'est un trépied très important.
Voilà, et c'est ce même Jefferson qui va partir quelques années plus tard en France.
Qui va être l'ambassadeur à Paris.
Qui va être l'ambassadeur à Paris, et qui sera là en 1789, et qui va donner un petit coup de main quand même à la Déclaration des droits de l'homme, la vie.
Donc il y a une filiation.
La vie, la liberté, la recherche du bonheur, liberté, égalité, fraternité, on n'est pas très loin.
Les racines du présent, RCF.
Les Racines du Présent, au micro Frédéric Mounier. Nous sommes en conversation avec Dominique Simonet, qui est co-auteur avec Nicole Bacharan, d'un livre passionnant intitulé « Les grands jours qui ont changé l'Amérique ». C'est publié chez Perrin. Nous parcourons ces grandes journées. Alors, nous avons évoqué le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance. Nous avons rappelé le rôle éminent de Lafayette et des 14 000 soldats français dans cette déclaration d'indépendance vis-à-vis du royaume de Grande-Bretagne. Et nous allons en arriver à une date peut-être un peu moins connue chez nous. C'est le 2 décembre 1823, ce qu'on appelle la doctrine de Monroe, l'Europe, c'est fini. C'est-à-dire que là, vraiment, il semblerait que à cette date-là, le 2 décembre 1823, les États-Unis revendiquent leur pré carré et affirment leur suprématie sur tout le continent américain. Dominique Simonet.
Oui, c'est une date importante. Elle se manifeste pas par un événement particulier, si ce n'est la déclaration du président des États-Unis, mais solennellement. Il déclare que les États-Unis auront désormais la prééminence sur l'ensemble du continent, et des deux continents nord et sud américains.
Ça veut dire que ni la France, ni la Grande-Bretagne n'ont leur place.
Absolument. Et il prévient d'ailleurs que l'Europe ne devra pas y mettre son nez. Mmh. Et ça, c'est après la déclaration d'indépendance quelques décennies plus tôt, on assiste là à une volonté de cette nation qui se développe de plus en plus, de régner sur cette partie de continent, et de surtout de ne pas avoir d'ingérence de leurs ancêtres européens.
Mais donc, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Absolument.
C'est ça qui est intéressant, Dominique Simonet.
Absolument, vous avez raison. Ni dans un sens, ni dans l'autre. L'Europe restait bien à l'écart.
Voilà.
Et nous, on restera à l'écart des conflits du monde. Et en fait, c'est le début de l'isolationnisme tel qu'on le dit aujourd'hui. Mmh. C'est que nous, Américains, nous allons rester entre nos deux océans. Pour l'instant, ils sont pas encore sur la côte pacifique, ou pas trop. Et on va donc rester là, avoir notre souveraineté, et puis vous pouvez toujours, vous, vieille Europe, vous tapez dessus, on viendra pas vous aider, on viendra pas,
et
en tout cas s'en mêler.
On va retrouver cette question dans quelques instants, en 1917, au moment de la Première Guerre mondiale, parce que cette même question va se poser. Alors, il y a quand même deux autres moments forts avant la première Guerre mondiale, parce que les contradictions internes de cette nouvelle nation américaine que vous avez évoqué au début de cette conversation, Dominique Simonet, ces contradictions internes se manifestent toujours. Le 19 novembre 1863, après la bataille de Gettysburg, donc nous sommes au cœur de ce qu'on appelle la guerre civile américaine, ce que nous appelons, nous, la guerre de sécession. Il y a eu 50 000 morts dans cette bataille qui a duré 2 jours, qui a été une bataille d'une férocité incroyable. Il faut rappeler que cette guerre civile a fait 600 000 morts pour 31 millions d'habitants. Donc c'est, je crois, l'un des conflits les plus violents et les plus difficiles du 19e siècle. Ce jour-là, après la bataille de Gettysburg, Abraham Lincoln parcourt les charniers et prend une décision, Dominique Simonet.
Oui, c'est-à-dire on parle aux États-Unis de guerre civile. Et c'était une guerre civile. C'est-à-dire, d'un seul coup, cette nation qui est encore toute jeune, vraiment. On est 1863, donc déclaration d'indépendance 1776. Il n'y a pas un siècle. Et cette nation-là va se déchirer d'une manière abominable. Vous l'avez dit, 600 000 morts. C'est quand même absolument incroyable.
Pour un petit peuple, quand même.
Pour un petit peuple. Mmh. Et Lincoln, qui vient voir... Après la bataille de Gettysburg, il faudra des jours et des jours d'ailleurs pour enlever les cadavres. Ce sont des collines qui sont jonchées de cadavres. Et il va effectivement se retrouver devant ce charnier et fonder d'une certaine manière cette espèce d'idée qu'il faut que cette nation reste soudée d'une manière extrêmement forte, en dépit de ces violences, en dépit de toutes ces contradictions, et que le Nord et le Sud doivent se réunir. Alors, parce qu'on a quand même deux systèmes très très différents, c'est pas la même économie.
Expliquez-nous.
Oui, on a au Sud, on a l'économie du coton, et qui fonctionne encore une fois, et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, qui fonctionne avec l'esclavage, et abolir l'esclavage l'esclavage, comme Lincoln y songe. Ça veut dire, d'une certaine manière, pour les sudistes, voilà. C'est casser l'économie du Sud.
C'est leur ruine, voilà. Assurée. Mmh.
Donc cette opposition-là est absolument fondamentale. Et elle s'oppose, on le voit bien, au projet initial d'une unité, d'une nation, d'un Américain, un nouveau monde, un nouveau peuple, un nouvel homme, d'une certaine manière. Et donc, il y a toujours cette contradiction, et ne parlons pas effectivement de la manière dont les Noirs américains peuvent le voir, parce que eux en sont les premières victimes.
Mais alors, finalement, peut-on dire que l'esclavage a été aboli après cette guerre civile, cette guerre de sécession?
Alors, Lincoln, en fait, n'avait pas vraiment l'intention. En fait, on l'avait raconté dans un autre livre, n'avait pas vraiment l'intention d'abolir vraiment l'esclavage. Mais pendant la guerre de sécession, quand le Nord a envahi le Sud, les esclaves sont arrivés, en fait. Ils sont arrivés devant les troupes nordistes et ils se sont intégrés dedans. Et voilà. Et donc, d'une certaine manière, ils se sont un peu libérés eux-mêmes aussi.
À l'occasion de cette guerre.
À l'occasion de cette guerre. Et donc, Lincoln a pris la décision de proclamer l'émancipation.
Ça ne s'est pas fait tout à fait.
Simplement, on a parlé. Il reste toujours les plantations au Sud. Il reste cette culture
voilà. Profondément implantée.
Profondément implantée. Et
la ségrégation s'est poursuivie.
Et voilà,
jusque pendant la Seconde Guerre mondiale. On se souvient que les troupes américaines qui sont venues nous libérer du joug nazi en 1944 étaient des troupes au sein desquelles la ségrégation entre blancs et noirs était encore vive.
Absolument. Au point que les unités étaient séparées, les unités noires étaient séparées, et que même on ne mélangeait pas le sang des noirs et le sang des blancs s'il y avait des transfusions à faire.
C'est dire.
Ouais.
C'est dire la force de cette culture de séparation et de ségrégation.
Et donc, l'abolition de l'esclavage, oui, mais la ségrégation, dans les années 50, la ségrégation frappe encore et on pourra parler
alors,
tout
à l'heure.
Alors, on
va y venir, évidemment. Alors, il faut rappeler qu'Abraham Lincoln a été assassiné, donc c'est aussi l'une des expressions, on y reviendra tout à l'heure, de la violence à l'œuvre dans la vie politique américaine. Avant de poursuivre et d'arriver à la Première Guerre mondiale, encore un point sur la situation des Américains face aux nations indiennes. Une date très importante que vous évoquez, c'est le 29 décembre 1890, avec la bataille, je ne sais pas s'il faut dire la bataille ou le massacre de Wounded Knee, c'est-à-dire, écrivez-vous Dominique Simonet, le jour où les Américains, aveuglés par la haine et la cupidité, enterrent les nations indiennes et l'ultime chance d'un pays réconcilié. Que s'est-il passé ce 29 décembre 1890 à Wounded Knee? Wounded Knee. C'est difficile à prononcer en français, ça veut dire le genou blessé.
Genou blessé, oui, c'est le nom d'un lieu, d'un canyon. Écoutez, c'est l'aboutissement de deux siècles de trahison, de conquête et d'extermination des tribus indiennes. Il y a eu des expulsions systématiques, il y a eu notamment sous le mandat du président Jackson, des déportations massives d'Indiens. On les repoussait toujours plus à l'ouest, en fait. Il fallait toujours gagner des terres, donc on les repoussait à l'ouest. Et dans la mémoire indienne, il y a des drames. Il y a cette fameuse piste des larmes où les Indiens de Cherokee ont été repoussés, emportés sous la garde des soldats américains, le plus à l'ouest, et la plupart avec une très longue marche qui sous la neige, etc. C'est horrible, et les gens, les femmes, les enfants, les hommes mouraient. Et ce 29 décembre 1890, d'une certaine manière, c'est presque l'apogée de cette extermination. Il y a un petit groupe, c'était pas très nombreux, mais une tribu indienne qui est repoussée, et il y a 500 soldats armés de mitrailleuses lourdes qui les cernent, qui les rangent dans un campement avec l'idée normalement de pouvoir les déporter un peu plus loin. Ce sont la tribu Sioux, et on ne sait pas bien ce qui s'est passé, mais apparemment, il y a un des Indiens qui a fait un geste un peu ambigu. Il a peut-être sorti un fusil, etc. Et l'armée a commencé à tirer, mais à tirer sur ce campement, comme ça, où il y avait des femmes, des enfants. Et c'est là aussi, charnier, abomination... On dira que les soldats se sont acharnés, ont couru après les enfants pour les tuer. Et c'est un jour, en fait, qui restera jamais gravé dans la mémoire des Native Americans, parce que c'est, d'une certaine manière, là, c'est la fin. C'est quelque chose qui dit, ben voilà, c'est fini. Les colons, qu'on appelle plus colons, les Américains ont gagné et il va falloir, non pas oublier, parce que l'héritage indien et la culture indienne va rester, et des Indiens, parce que c'est un grand nombre de tribus très diverses, mais d'une certaine manière, l'hégémonie des Blancs américains va s'imposer.
Alors ce qui est quand même fascinant, Dominique Simonet, c'est que ce drame et ce génocide, vous n'avez pas peur des mots dans votre livre, ce drame a donné lieu à une épopée cinématographique qui a nourri des générations et des générations d'Occidentaux à travers le monde, c'est le western. Alors je voudrais vous faire écouter à nouveau un extrait sonore qui parlera aux oreilles de tous ceux et aux yeux de tous ceux qui regardaient l'unique chaîne de télévision française en noir et blanc dans les années 60. C'est le générique et la bande-annonce de ce qu'on n'appelait pas une série à l'époque, mais un feuilleton qui s'intitulait Rintintin. On écoute.
Vous sachiez distinguer votre pied droit de votre pied gauche. Gauche, droite, gauche, droite.
Tiens alors, tu nous mènes durement, sergent instructeur Adada. Mais il faut que nous soyons prêts. Le lieutenant Masters m'a dit que la révolte grondait chez les Indiens et qu'il fallait s'attendre au pire. C'est pour ça qu'il pousse à fond l'instruction des nouvelles recrues. Il veut en faire en peu de temps des soldats d'élite. Voilà.
Voilà, les plus anciens d'entre nous ont reconnu le jeune Rusty, déjà un enfant soldat. C'est quand même, c'est un môme qui a 8-10 ans et qu'on entraîne à l'armée. Le lieutenant Ripmaster, c'est le fameux chien Rintintin, avec cette phrase mythique, la révolte gronde chez les Indiens. Comment expliquez-vous, Dominique Simonet, que Hollywood, l'usine à rêve, ait réussi à transformer ce génocide en une épopée cinématographique?
C'est un peu la poursuite d'une illusion et d'un mythe, le mythe de la virginité américaine, le mythe de la, on est arrivé dans un pays et on a construit un nouveau monde, ce qui est faux. Mm-hmm. Il y avait des gens avant, il y avait, voilà. Et donc, c'est effectivement assez intéressant. Les deux extraits musicaux que vous avez passés, à la fois Pocahontas et Rintintin, ça montre cette persistance d'une illusion et d'un déni. Là, c'est vraiment le déni de la réalité indienne. Un enfant soldat, effectivement, comme vous dites, je n'ai pas pensé à ça.
Avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est tout à fait étonnant. Oui.
Et les Indiens considérés comme des sauvages et des ennemis. Alors, c'est vrai qu'il y avait des tribus qui n'étaient pas très sympathiques. Hein, ça, c'est,
oui, la violence était des deux côtés,
absolument,
évidemment.
Ça, il faut pas le nier non plus.
Oui.
Mais cette illusion-là était... inscrite dans la culture américaine, oui, et d'ailleurs ce qui caractérise beaucoup les États-Unis, c'est cette capacité à inventer en permanence son récit et à toujours réactualiser les mythes et à les poursuivre et à les
moderniser. Et on l'a vu également sur le Vietnam, par exemple.
Bien sûr.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui autour de l'histoire des États-Unis. Nous nous interrogeons sur qui sont vraiment nos amis américains. Sont-ils vraiment nos alliés? On va voir ça dans la dernière partie de l'émission. Notre invité, Dominique Simonet, journaliste qui a coécrit avec Nicole Bacharan un livre passionnant intitulé « Les grands jours qui ont changé l'Amérique ». C'est publié chez Perrin. Alors, on a parcouru avec vous, Dominique Simonet, un certain nombre de dates très importantes. On a vu avec vous cette contradiction, ce paradoxe permanent entre cette nation de la liberté et cette nation qui extermine les des Indiens, cette nation de la paix qui est menée par la violence. On va en venir au 4 juillet 1917. On a vu tout à l'heure le 2 décembre 1823, le moment où l'Amérique a décidé de ne plus se mêler des affaires de l'Europe et où l'Europe ne devait pas toucher aux Amériques. Et voilà que le 4 juillet 1917, Lafayette nous voilà, les Américains renoncent à l'isolationnisme et viennent au secours de la France, endossant finalement un rôle de puissance mondiale. Ça ne s'est pas fait tout seul, Dominique Simonet.
Non. Non, d'ailleurs, le président Wilson, à l'époque, s'était fait élire sur l'idée que les États-Unis ne se mêleront pas de la guerre européenne. Dans cette belle tradition dont on avait parlé tout à l'heure de Monroe, c'est-à-dire restons chez nous, ne nous mêlons pas.
Une partie des nouveaux Américains était originaire d'Allemagne, de Prusse, et une autre partie était originaire du Royaume-Uni, de France, etc. Donc il y avait des tensions internes.
Il y avait aussi des tensions internes. Mais c'est vrai que pour un Américain à cette époque-là, et d'ailleurs à d'autres époques, l'idée d'aller envoyer un de ses enfants se battre dans les tranchées de cette guerre
qui avait déjà commencé depuis 3 ans, quoi.
Voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, c'était pas du tout quelque chose de très sympathique. Et ce qui va se passer, évidemment, c'est que malgré tout, Wilson va être obligé de prendre cette décision. La situation s'est détériorée dans l'Atlantique et les États-Unis voient bien que de toute façon
des navires américains ont été coulés.
Absolument.
Par des sous-marins allemands. Dans l'Atlantique, on a oublié ça.
Hein. Oui,
oui. La guerre s'est déroulée là aussi, pas si loin des côtes américaines.
Bien sûr. Mmh. Et donc, il y a cette décision que, ben oui, on va y aller, il faut y aller. Et il y a une mobilisation, alors là, très, très, très importante aux États-Unis pour envoyer des troupes en France, notamment.
Il y a eu 2 millions de soldats qui sont partis.
Oui.
120 000 tués, c'est considérable quand même.
C'est énorme. Mmh. Et ce 4 juillet 1917, le général Pershing se trouve devant la tombe de Lafayette au cimetière Picpus
à Paris.
À Paris. La tombe existe toujours. D'ailleurs, moi, je l'ai vu.
Qui est un cimetière historique aussi, il faut le rappeler, parce que c'est là où des victimes aristocrates de la Révolution ont été enterrées.
Exactement. Il y a des fosses communes très, très, juste à côté de la tombe de Lafayette. Oui. Et Pershing se trouve là pour rendre hommage à Lafayette. Et alors, c'est pas lui qui va le dire, parce que là aussi, avec le brouillard de l'histoire, on lui a attribué cette phrase. Mais c'est un journaliste, je crois,
c'est
une belle phrase. Il dira Lafayette, nous voilà. C'est-à-dire Lafayette, les Français, nous vous rendons la monnaie de votre pièce. Nous venons vous aider. Alors que vous êtes venu nous aider pendant notre guerre d'indépendance. Et au même moment, c'est pendant ces jours-là, les premiers soldats américains débarquent. Alors ils vont quand même... Il y a un débat entre historiens, on va pas le trancher. Est-ce que leur intervention, leur présence a été décisive? Il semble que oui, quand même.
Mmh. Et ne serait-ce que par l'effet de masse.
Absolument, ne serait-ce que par l'effet de masse. En tout cas, l'armée américaine est venue au secours de son allié français et elle a joué un rôle prépondérant dans ce qu'on appelle maintenant la première guerre mondiale.
Mais alors, il faut se rappeler, et vous le rappelez dans votre livre, Dominique Simonet, que vous coécrivez avec Nicole Bacharan, que pour arriver à ses fins et pour persuader le peuple américain de traverser l'Atlantique et d'aller sauver l'Occident, eh bien, le président Wilson a dû mettre des limites très sévères à la liberté d'expression. Et vous nous rappelez ce qu'on a pu oublier, que Beethoven et Brahms ont été bannis des salles de concert américaines.
Oui, alors c'est toujours on le voit d'ailleurs au fil de l'histoire américaine, à chaque fois qu'il y a une intervention des États-Unis, une tension internationale très très forte, et effectivement la société démocratique se crispe. Mm-hmm. Il y a une privation des libertés. Oui, là, les ressortissants allemands sont mal vus, et même jusqu'à leur culture. On le verra avec les Japonais dans la guerre suivante aux États-Unis. C'est la même chose.
Dans quelques instants.
Donc il y a une oui bien sûr. C'est toujours d'ailleurs c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a cette tentation à l'isolationnisme, parce qu'on sait très très bien que quand on rentre dans un processus de guerre, dans une logique de guerre, la démocratie en prend aussi un coup.
Voilà. Et donc il y a cette tension permanente entre l'intervention à l'extérieur et l'isolationnisme. On sait que après la victoire des des Alliés durant cette Première Guerre mondiale. Le président Wilson est resté longtemps en France pour tenter de mettre en œuvre ce qu'on appelait le plan Wilson, mais que finalement, le Congrès américain ne va pas signer le traité de Versailles.
Oui, alors ça, c'est une histoire fascinante, parce qu'en fait, Wilson est allé lui-même négocier le traité de paix à Paris, ce qui est rare. Il est même resté, je crois, 3 ou 4 mois à Paris.
C'est ça,
pour
il
un
a
président
été acclamé par les Français à
acclamé
chacune de
par
ses
les
sorties.
Français, voilà. Et son grand projet, c'était un idéaliste, Wilson. Son grand projet, c'était de faire une société, une réunion de toutes les nations du monde qui empêcherait les guerres, que ce soit fini et que voilà. Il y croyait vraiment, vraiment, vraiment.
C'était l'ONU déjà.
C'était la Société des Nations.
Voilà.
L'idée, c'était Société des Nations. Et donc il a réussi malgré tout à pas mal de concessions à le faire inscrire dans le traité de Versailles. Et il est revenu aux États-Unis. Simplement, il avait fait l'erreur de pas associer ses opposants. Et aux États-Unis, on n'aimait pas du tout ce traité, notamment pour l'un de ses points qui, justement, accorde aux membres de cette Société des Nations le droit de requérir l'aide des autres. C'est-à-dire une clause d'assistance mutuelle, d'une certaine manière. Et là, les Américains disent non. Là, on est engagé par principe à intervenir dans les guerres, dans les guerres futures. Donc, il ne voulait pas. Et Wilson s'est épuisé, mais littéralement épuisé. Il a parcouru les États-Unis en train, dans une équipée absolument invraisemblable, pour aller conquérir, pour aller parler au peuple, parce que les députés ne voulaient pas. Et ben, je vais convaincre directement les gens. Il est allé dans un certain nombre d'États.
Et ça n'a pas marché.
C'est pas que ça n'a pas marché. C'est qu'il est tombé très malade, très très malade. Il a eu un AVC, une paralysie du côté droit, je crois, sévère. Et c'est sa femme qui a pris le relais des affaires courantes de la Maison Blanche sans le dire. Il y a une espèce de régence totalement étrange. C'est une parenthèse dans l'histoire américaine qui a duré quelques mois. Mais du coup, les négociations avec le Congrès n'ont pas abouti, ou en tout cas, elles se sont très très mal passées. Et les États-Unis n'ont pas ratifié l'entrée dans la Société des Nations. Et alors, on peut se demander. Parce que c'était quand même, vous le disiez, une espèce de première ONU, une première des Nations Unies. Est-ce que si les États-Unis avaient été là, est-ce que ça aurait changé quelque chose dans ce qui va se passer à suite, c'est-à-dire les années 30 et la montée.
Du chrony, on ne va pas réécrire l'histoire, peut-être une autre fois. Venons-en au début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique se tient soigneusement en retrait, conforme à sa tradition isolationniste. Et puis, le 7 décembre 1941, coup de tonnerre, coup de théâtre, l'Amérique subit l'une des plus grandes défaites de son histoire, à Pearl Harbor, à Hawaï, donc, et écrivez-vous, Dominique Simonet, cet épisode tout à fait inattendu, la force à s'engager dans la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, parce que là, Franklin Roosevelt, le président de l'époque, cherchait un prétexte. Il cherchait un prétexte pour intervenir, parce que intervenir dans ce nouveau conflit européen, plus qu'européen déjà à l'époque. Et lui aussi, d'une certaine manière, avait son opinion publique contre lui, parce que les Américains voulaient pas envoyer leurs enfants là-bas. C'est simple.
À nouveau.
Et Churchill avait fait le voyage pour essayer de le convaincre. Churchill voulait absolument. Il était convaincu, Churchill, que si les Américains n'intervenaient pas, il n'y arriverait pas. Et donc, il a notamment fait un voyage qui est resté secret un bout de temps, en traversant l'Atlantique et en se réunissant sur un bateau avec Roosevelt. Roosevelt est un président handicapé. Il y a des scènes assez extraordinaires où Roosevelt lui a dit oui, on va. Enfin, il lui a promis. Et Pearl Harbor, cette attaque surprise inattendue des Japonais sur la base américaine dans le Pacifique lui donne le prétexte en disant ben voilà, là c'est plus possible, on est attaqué. Et c'est vrai, là les États-Unis sont directement attaqués par les Japonais. Donc le prétexte, en fait, c'est plus un prétexte, c'est une bonne raison, c'est une raison valable pour que les États-Unis ripostent. Ils ne pouvaient pas rester à ne rien faire.
À ce stade-là, vous nous faites part dans votre livre, Dominique Simonet, d'une certaine forme de regret des Japonais. Vous dites que des responsables japonais auraient dit « nous avons réveillé un géant endormi ». Ils ont pris peur suite à leur attaque surprise. Que s'est-il passé ?
C'est-à-dire qu'ils ont déclenché effectivement toute la puissance américaine. Alors, sans Pearl Harbor, est-ce que les Américains seraient quand même intervenus dans la guerre? Là encore, on peut faire des hypothèses. Mais malgré tout, là, ça a tout déclenché. La puissance américaine, elle était considérable. Elle était considérable et surtout, elle s'est mobilisée. Il y a l'industrie américaine s'est mise, la nation entière est devenue une machine de guerre, une machine à produire des armes, une machine à aider les soldats. Même la First Lady, Eleanor Roosevelt, est allée aider les soldats. Il y a eu un engagement extrêmement intense des États-Unis. Jusqu'au débarquement et jusqu'à
Hiroshima et Nagasaki. Alors, que vous rappelez, c'est deux seules explosions nucléaires.
C'est l'épisode suivant. Mm-hmm. Et là, ce n'est plus Roosevelt.
Oui.
C'est Harry Truman qui a pris le relais. Et Truman est un président assez étonnant parce que il, d'une certaine manière, c'est quelqu'un d'un peu timide. Il devait pas arriver là, il devait pas être là.
C'était pas prévu, c'était pas vraiment sa vocation.
Non. Et il se retrouve à prendre cette décision absolument incroyable. Dès qu'il arrive, il n'était pas au courant d'ailleurs. Dès qu'il arrive à la Maison Blanche, on lui dit on a un dossier à vous transmettre et c'est le dossier. On a une arme extrêmement puissante qui est terrifiante et qui est au point. Et voilà, les militaires recommandent de l'utiliser. Et donc il va y avoir un certain nombre de réunions à la Maison Blanche pour déterminer les sites et les villes de manière à faire le plus d'impact possible. Parce que le but, et c'est terrible, mais le but qui est recherché, c'est de faire une démonstration de force et de dire voilà, nous avons cette arme, on vous montre ce que ça donne. Donc il faut faire le maximum de dégâts, on vous montre ce que ça donne et après ce sera fini. Parce que là, à cette époque-là encore, les Japonais ne lâchent pas. Ils sont toujours agrippés à leur combat. Et Truman estime que, ben oui, la seule manière, c'est d'utiliser cette bombe. Alors, pour une démocratie décidée sciemment, froidement, qu'on va lâcher une bombe absolument terrifiante, la pire que l'humanité ait jamais été construite sur telle ville qui comporte des milliers d'habitants et de civils.
C'est une décision hallucinante dont on
parle encore. Oui.
Alors au passage, il faut rappeler, vous le faites dans votre livre, Dominique Simonet, que les libertés publiques ont été aussi sévèrement restreintes aux États-Unis à l'occasion de cette entrée en guerre et que notamment à l'encontre des Japonais, vous rappelez que 120 000 Japonais ont été internés aux États-Unis, qui étaient des citoyens américains.
Oui, ça ressemble effectivement un petit peu aux restrictions et aux l'ostracisme qu'ont subi les ressortissants allemands pendant la Première Guerre. Là, ce sont les Japonais. Mmh. Et certains sont parqués effectivement dans des camps avec des limitations de liberté, mais sont considérés comme des ennemis.
Voilà. Et on peut même visiter à Los Angeles, on peut visiter un musée où les familles des Japonais qui ont été internés ont reconstitué les conditions de vie et justement cette limitation aux libertés publiques. Alors venons-en, Dominique Simonet, dans le cadre de votre livre, donc Les grands jours qui ont changé l'Amérique, chez Perrin, coécrit avec Nicole Bacharan, à des dates plus contemporaines et dont on a beaucoup parlé ces derniers temps à l'occasion du départ pour le moins désordonné des troupes américaines de Kaboul. On a rappelé ce qui s'était passé le 30 avril 1975. C'était donc la fuite de Saïgon, le jour où les Américains, écrivez-vous, Dominique Simonet, abandonnent le Vietnam aux communistes, ainsi qu'une partie de leurs illusions. Vous rappelez que cette retraite a été équivalente à celle de Dunkerque sur les côtes françaises en 1940. Que s'est-il passé exactement le 30 avril 1975
Là, c'est la guerre du Vietnam, qui est le prolongement de la guerre d'Indochine. C'est un cauchemar pour ce pays et en même temps c'est le front de la guerre froide d'une certaine manière. Les Américains veulent contenir le communisme. Ils veulent éviter que le Vietnam passe communiste, ce qui pourrait déstabiliser la région. En tout cas, c'est la théorie de l'époque et qui fait qu'il faut absolument faire une digue et donc combattre le Nord Vietnam qui est communiste et le Viet Cong qui est les alliés du Nord et qui combat au Sud. Mais les troupes américaines sont déjà parties en pour la plupart. C'est terrible pour le peuple américain. Il y a eu des contestations.
Il y a eu 50 000 morts, 50 000 soldats américains tués.
Voilà, chaque jour jour, les Américains voient à la télévision des avions qui reviennent avec des cercueils, de jeunes soldats. Il y a des drapeaux en berne dans beaucoup de villes américaines.
Vous rappelez sur ce point précis, vous rappelez cette phrase de John Kerry. John Kerry qui a été vice-président d'Obama et qui aujourd'hui fait partie aussi de l'équipe de Joe Biden. En 1971, John Kerry était un lieutenant, ce qu'on appelait un vétéran, un ancien combattant. Et devant une commission du Sénat, il a eu cette phrase « Comment demander à un homme d'être le dernier à mourir pour une erreur ?» C'était ça ce que les gens avaient en tête à l'époque.
Les gens avaient en tête que c'était absolument une erreur, que c'était plus possible. De toute façon, on voyait bien que le Vietnam s'était perdu, la guerre était perdue. On peut à la limite comprendre cette ambition de dire mais le communisme c'est une horreur. Regardez ce qui se passe au Cambodge à la même époque, c'est-à-dire l'horreur des Khmers rouges. Donc oui, mais une guerre, elle est juste si elle est gagnée. Et là, elle était perdue. Elle était perdue et les Américains ont attendu. Ils ont attendu. Il y avait un plan d'évacuation pour les derniers Américains qui restaient là. Et en 75, d'un seul coup, par une erreur d'appréciation des États-Unis, les informations ne sont pas très très fiables entre les ambassades et la Maison Blanche et le Pentagone. Enfin, et puis surtout, il y a un certain nombre de gens d'autorité américaine qui mentent, qui disent mais non, on va y arriver.
Voilà. Maintenant, les archives sont sorties. Vous y avez eu accès.
Voilà. Et on voit très très bien. Il y a des mensonges évidents pour essayer de faire croire au peuple américain que oui, on peut toujours envoyer des jeunes soldats parce qu'on va la gagner cette guerre. Non, tous les stratèges pensent qu'elle est perdue et le président ment. Et donc à ce moment-là, ce fameux jour de 75, c'est vrai que ça ressemble un peu, ou plutôt l'Afghanistan aujourd'hui ressemble à ça. On voit ces fameux hélicoptères qui font la navette entre les navires de guerre et le toit de l'ambassade américaine pour évacuer les derniers Américains et les quelques personnes qui ont travaillé avec eux. Alors à la différence de l'Afghanistan, c'est que là il y avait un plan. Il y avait un plan avec des lieux de rassemblement. Et il y avait un plan pour évacuer les civils, en tout cas les civils les plus proches, les plus proches des Américains, c'est-à-dire pas grand-chose, parce que tous les autres
sont restés. On les a appelés ensuite les boat people, il y en a eu 2 millions qui ont fui leur pays ensuite dans les années suivantes. Alors aujourd'hui, peut-être le moment est venu, Dominique Simonet, pour vous de faire une sorte de bilan, parce qu'on voit bien, on a bien vu en vous écoutant au fil de l'histoire, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Vietnam, et puis ensuite Irak, Afghanistan, ces tensions permanentes pour les États-Unis entre intervention ou isolationnisme. On voit bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de nations européennes qui sont dans le cadre de l'OTAN, cette alliance, s'interrogent sur le souhait, sur la possibilité des États-Unis de les protéger en cas de mouvement offensif du côté des Russes. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit aux États-Unis, Dominique Simonet, sur cette question de intervention ou non-intervention ?
La société américaine est très divisée. Très divisée. On l'a vu notamment sous le mandat de Donald Trump. Elle a été encore plus divisée. On voit bien la différence entre ce qu'a pu représenter soit Hillary Clinton ou Joe Biden aujourd'hui et l'Amérique de Donald Trump. Enfin, quand je dis l'Amérique, il n'y a pas une Amérique de Donald Trump. En tout cas,
de ses partisans.
Mm-hmm. Oui, de ses partisans qui n'est pas effectivement qui n'est pas équivalent à ses électeurs. C'est pas la même chose. Parce que tous les électeurs de Trump ne sont pas des fous furieux d'extrême droite. Mais cette Amérique-là, effectivement, elle a tendance aujourd'hui à se replier encore sur elle-même. Parce que il y a cette idée que quand les Américains interviennent, ça se passe pas bien. Et puis, en plus, ils sont critiqués par le monde entier. Pourquoi aller faire tuer nos jeunes gens là-bas?
Si j'étais lituanien, letton, je pourrais m'inquiéter sur la capacité de protection que m'offriraient les États-Unis éventuellement.
Oui, je pense que en ce moment, oui. Simplement, c'est vrai que c'est un débat éthique. C'est un débat très difficile parce que. Qu'est-ce que vous choisissez? La maman qui vous dit moi je veux pas envoyer mon fils de 19 ans là-bas, il va se faire tuer, mais non, pourquoi vous m'obligez? Ou la jeune afghane de 19 ans qui elle se cache dans la
se cache des talibans.
Dans les, voilà, des talibans, et qui risque la mort parce qu'elle a joué de la musique, ou etc. Mmh. Donc il y a un choix qui est extrêmement difficile. Et là, je pense qu'on a une crispation qui est terrible, parce qu'on est parti dans une idée que, ben non, il vaut mieux pas intervenir. Le droit d'ingérence, vous vous souvenez, cher à Bernard Kouchner, on n'en parle plus, on pense que c'est une abomination. On a vu Obama qui n'est pas intervenu avec en Syrie, alors qu'il y avait la ligne qui avait été tracée. Si vous utilisez des armes chimiques, là c'est abominable, on interviendra. Et il n'est pas intervenu.
Au dernier moment, il a renoncé.
Il a renoncé. Et donc, il y a ce discours de, il faut défendre nos intérêts d'abord. Oui, tous les pays défendent leurs intérêts. Nous aussi, les Français défendent leurs intérêts. Mais il faut aller un peu plus loin quand même. Mais ça veut dire qu'on reste tous comme ça et on regarde les abominations du monde se passer. Non, je pense qu'il y a, le grand débat aujourd'hui que les démocraties doivent avoir, c'est nos valeurs démocratiques, la liberté, le droit à un individu de vivre à égalité avec les autres et de vivre libre de penser, de libre d'aimer, de libre de comme en France, comme en démocratie, ce droit-là, est-ce que il est réservé à quelques démocraties qu'on met des murs autour
Immense
de nous?
Immense question, Dominique Simonet. Alors, je voudrais en venir, il nous reste une poignée de minutes, je voudrais en venir à la dernière date que vous évoquez, puisque votre livre est aussi un livre d'histoire contemporaine. C'est le 6 janvier 2021. On se souvient de l'assaut du Capitole. On a vu ces images qui nous ont tous absolument hallucinés. Le jour où le président Trump, a refusé de reconnaître sa défaite électorale et a tenté de garder le pouvoir en appelant à la violence. Ça pouvait être attendu, ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, cet épisode hallucinant où une partie du peuple américain est montée à l'assaut du Capitole, Dominique Simonet?
C'était une surprise pour beaucoup de gens, mais bon, cela dit, Donald Trump l'a quand même vraiment attisé, cet événement. Il a appelé sans arrêt à la haine, il a appelé ses partisans, il a même appelé des groupes d'extrême droite dans ses discours à se tenir prêts, donc c'était totalement explicite.
Et il a refusé de faire intervenir les forces de l'ordre.
Et oui, ce jour-là, il était là à faire son discours et il a dit maintenant allez-y. Enfin, donc, alors après, autour de lui, on a bien vu que en fait la situation n'était pas maîtrisable et que c'était une espèce de petit coup d'État fait par un président, ce qui est quand même absolument étonnant, qui ne pouvait pas fonctionner. Donc simplement, on a vu là les limites d'une démocratie, les limites du Parti républicain qui a fait confiance à ce monsieur qui est loin d'avoir disparu de l'histoire contemporaine. Et on voit la crispation et la tendance très autoritaire d'une partie de la classe.
En vous écoutant, Dominique Simonet, et en vous lisant, donc en lisant votre livre passionnant, Les grands jours qui ont changé l'Amérique chez Perrin, le mot qui vient à l'esprit, c'est comme la fragilité. Fragilité de la démocratie américaine, fragilité de la capacité américaine à intervenir, fragilité devant la violence. Vous rappelez que 300 millions d'armes sont disponibles, qu'il y a eu 229 tueries de masse entre 1999 et 2020. C'est un pays très fragile, au fond. C'est un géant, un colosse au pied d'argile, et les États-Unis, Dominique Simonet.
Oui, on parle d'ailleurs, on consacre un chapitre au massacre de Columbine en partant des journaux intimes des deux jeunes assassins, puisqu'ils ont tué une partie de leurs camarades de classe. Et c'est absolument, ça fait froid dans le dos parce qu'ils ont. Ils développent une idée. Mais vous avez raison.
Fragilité,
vous avez raison. C'est la conclusion à avoir de tout ça. Les démocraties sont fragiles. Elles sont fragiles. La démocratie, c'est un chantier. C'est pas quelque chose de terminé. C'est un chantier qu'il faut toujours remettre sur l'établi. Et il faut que cette leçon-là, elle résonne aussi dans nos têtes, à nous les Français.
Nous avons bien entendu cette leçon-là. Dominique Simonet, un grand merci. Je rappelle le titre de votre livre co-écrit avec Nicole Bacharan, Les grands jours qui ont changé l'Amérique chez Perrin. Une excellente lecture pour mieux connaître nos cousins américains. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Dominique Simonet et de Nicole Bacharan sur les sites de RCF. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.